une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien, là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
C'est un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, prof d'éco en prépa à Rouen, et tous les lundis, je décortique avec vous un sujet d'économie. Aujourd'hui, on va parler de pratiques anticoncurrentielles, de maquis juridiques et d'actions collectives. Pour cet épisode de notre série spéciale immobilier, on s'intéresse aux syndics de copropriété. On a déjà parlé ensemble des agents immobiliers, une profession d'intermédiaire de marché. Les syndics de copropriété, c'est un autre genre de professionnel, mais qui profite également de la belle santé du marché immobilier, comme on dit dans les magazines. Bref, des prix très élevés en ce moment. Les agences immobilières profitent de ce qu'on appelle en économie une asymétrie d'information. Si vous n'avez pas le temps ou pas envie d'éplucher tous les dossiers de locataires qui se pressent aux portes de votre deux pièces à 1 400 €, alors vous le faites faire par une entreprise. Les syndics de copropriété, c'est un peu différent. Ce sont les propriétaires d'appartements qui leur délèguent la gestion d'un certain nombre de dossiers parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix de faire autrement, en fait. On va le voir. Et du coup, leur rôle ne se limite pas à une seule transaction ponctuelle. Ce sont plutôt des acteurs qui sont engagés dans une relation durable avec leurs mandataires, les propriétaires, qui les payent souvent sans bien savoir ce qu'ils font. Et figurez-vous qu'ils en profitent. Est-ce que les syndics de copropriété veulent la peau de leurs propriétaires ? Avant d'entrer dans les détails de cette relation, de quoi parle-t-on au juste ? Si vous avez acheté un appartement, un parking, ou ce que l'on appelle plus généralement un lot dans une copropriété, vous allez être amené à partager des frais avec les autres propriétaires. Pour l'entretien des parties communes, les travaux éventuels, les espaces verts, etc., il faut bien se répartir la charge. On pourrait se dire qu'il suffit que les copropriétaires élisent l'un ou l'une d'entre eux au sein de l'assemblée des copropriétaires. Et ça existe parfois. Mais dans ce cas, ça risque de tomber sur Roselyne, 78 ans, qui a du temps devant elle et connaît bien l'immeuble, mais pas forcément la réglementation sur le bout des doigts. Et Roselyne risque de travailler pour presque rien. Et qui la remplacera quand elle ne pourra plus s'en charger? Donc, dans la plupart des copropriétés, ce sont des professionnels qui s'en chargent. C'est ce que m'a expliqué Lionel Moguin, journaliste à 60 millions de consommateurs et spécialiste du sujet.
Le fonctionnement, c'est assez simple. Tous les ans, les copropriétaires se réunissent. Préalablement, on a établi un ordre du jour qui répertorie tous les problèmes à régler dans la copropriété, notamment s'agissant des parties communes. Hein. Dans un immeuble, il y a parfois souvent un ascenseur, il y a des espaces verts, il y a des... Donc voilà, il faut bien que l'entité, l'association des copropriétaires s'en occupe. Donc, soit ils s'en occupent eux-mêmes en désignant l'un des leurs, ou soit ils mandatent en votant à la majorité, sur la base d'un contrat, ils mandatent un professionnel qui sera chargé essentiellement d'exécuter ce qu'on lui demandera.
Prenez des notes là. Le syndicat, c'est l'assemblée de tous les propriétaires. Le syndic, c'est l'agent qui exécute les décisions prises par l'AG. On peut y ajouter le conseil syndical. Ce sont les personnes qui se chargent d'être les interlocutrices du syndic pour éviter que l'on convoque trop souvent une assemblée générale. C'est le caractère collectif de la copropriété qui peut parfois poser problème. Contrairement à ce qu'on appelle habituellement un syndicat, ici tout le monde n'a pas nécessairement les mêmes intérêts à défendre. D'où le rôle du syndic, selon Henri Buzicazo, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers et très bon connaisseur du secteur.
Le syndic, il a un rôle que je compare un peu à celui du maire d'une ville. Il doit conjuguer des intérêts qui sont divergents. On dit ce qu'on veut, mais structurellement, vous avez 25 copropriétaires, il n'y en a pas deux qui veulent la même chose. Et ça, ça veut dire que ce rôle d'arbitre, parfois un peu de shérif, hein, il doit aussi faire respecter la loi, d'ailleurs, le règlement de copropriété, donc il a aussi un rôle de discipline. On n'aime pas quelqu'un qui a ce rôle-là. La deuxième raison, c'est que c'est un percepteur. Il appelle des charges. On ignore d'ailleurs souvent que quand il appelle 100, il n'y a guère que 7 ou 8 qui constituent ses honoraires. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle de quoi payer les factures pour les travaux, pour les fluides, pour l'énergie. Et moi, quelqu'un qui m'envoie des factures, et essentiellement des factures, je ne l'aime pas beaucoup.
On n'a pas le droit en France de ne pas avoir de syndic si on est dans une copropriété. Et la réglementation sur les travaux de rénovation, par exemple, ou encore l'entretien des ascenseurs, peut être très compliquée à maîtriser.
Vous montez ?
Oui, je vais au rez-de-chaussée.
Enfin, mon vieux, vous y êtes.
Eh ben, je suis arrivé.
Donc, ça ouvre la porte à des professionnels qui se chargent de le faire pour vous, et avec lesquels la copropriété signe un contrat. Dans tous les contrats, il faut évaluer ce qui doit être fait et à quel prix. Et ce n'est pas toujours évident.
Par exemple, ce qu'on reproche souvent au syndic, c'est de ne pas assez être à la fois réactif et pas assez présent. Donc, ce qu'il faut négocier dans le contrat, par exemple, c'est le nombre de visites annuelles qu'ils feront en compagnie des représentants du conseil syndical, du président en l'occurrence, parce que c'est quand même l'interlocuteur, le président du conseil syndical. Donc voilà, il faut négocier un certain nombre de visites annuelles. Après, les tarifs à regarder, c'est la vacation horaire, parce que parfois, il y a des abus tarifaires quand vous avez soit des tarifs de vacation horaire, c'est donc à l'heure, trop élevés ou même pas assez élevés, parce que des fois, ils ont tendance à inventer parfois des heures de travail qui sont suspects. Donc voilà, il faut établir un rapport de confiance. Et puis de humain, parce que ce n'est pas qu'un contrat, il faut aussi ressentir les gens, voir leur expérience. C'est un métier difficile, il est beaucoup critiqué. Et donc, quand vous êtes syndic, gestionnaire d'un immeuble, vous n'avez pas beaucoup de soirées déjà, parce que les AG se passent généralement le soir. Et puis, les copropriétaires, ils sont souvent... ils exigent une intervention rapide, ce qui est légitime. Et quand vous, l'un des problèmes des syndics, c'est qu'ils n'ont pas assez de personnel. Quand il y a un gestionnaire qui s'occupe de 50, 60 immeubles, comment peut-il faire ça correctement, même avec la meilleure des volontés? Donc, c'est un des critères à regarder.
En fait, les propriétaires ont généralement du mal à évaluer le coût du travail du syndic en amont, mais aussi en aval de la signature du contrat. C'est ce qu'on appelle un aléa moral en économie. Une fois que vous avez signé le contrat, il est possible que le syndic ne fasse pas bien son boulot, ou avec des délais trop élevés, ou à la va-vite. Et ça tient à ce qu'on appelle une relation d'agence. Ici, la copropriété est le principal, et le syndic est l'agent. La copro paye le syndic en lui déléguant un certain nombre de tâches. Mais les propriétaires n'y connaissent souvent rien, et en outre, ils n'ont pas les moyens de contrôler dans le détail ce que fait le syndic. Et puis comment faire si vous lui écrivez des mails qui restent sans réponse pendant des mois ? Alors que vous avez signé un contrat pour un an.
Et il faut, puisque c'est quand même votre patrimoine, c'est votre immeuble. Donc, mais c'est horriblement compliqué, les règles de copropriété. C'est rebutant. Y consacrer du temps, c'est pas marrant. C'est souvent très juridique. C'est évident que les syndics profitent de ça en disant « nous, on va vous expliquer ce qu'ils font la plupart du temps ». Mais enfin, ils expliquent, des fois, quand ça leur arrange, ils prennent une version qui les arrange de comment interpréter tel texte ou tel autre ou telle nouvelle règle. Et parfois, ils abusent effectivement de la crédulité des copropriétaires qui ne veulent pas non plus aller beaucoup plus loin pour vérifier ce que dit le syndic. Ils sont quand même payés pour savoir. Voilà. Et ça oriente forcément leurs propos. Et effectivement, ils peuvent profiter de ce maquis juridique, réglementaire.
Non seulement il y a un épais maquis réglementaire, mais le syndic, c'est un seul agent. Alors que la copropriété est constituée de plusieurs personnes qui peuvent ne pas être d'accord entre elles. Henri Buzicazo.
La deuxième chose, c'est qu'il a face à soi une collectivité. La relation, elle est beaucoup moins... elle est moins directe, elle est moins simple. Il y a une dissymétrie. Et oui, il y a des syndics qui peuvent se dire, cette assemblée, ils peuvent être tentés de la manipuler, de dire, allez, je vais la faire voter dans ce sens ou dans celui-là, je vais être un peu moins rigoureux avec telle ou telle disposition de la loi. Oui, c'est une tentation. Quand on est dans un métier de complexité et avec une relation qui est forcément complexe, avec une collectivité face à soi.
Résultat, un lourd dossier. Collecté par Lionel Mauguin entre 2012 et 2017, qui qui a recensé des abus très répandus à la fois sur la gestion des dossiers et sur les tarifs facturés par les syndics.
Donc, où ils s'en donnaient un cœur joie, ils inventaient chaque année des nouvelles prestations qu'ils facturaient, quoi. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et donc, on a pu constater que ça était respecté. Après, il y a depuis d'autres types d'abus et d'autres types de contournements. Je vais donner l'exemple de lorsque vous vendez votre appartement, vous devez fournir un document au notaire, enfin le syndic. Là, vous n'avez pas le choix. Il faut vraiment vous donner l'état de votre position financière par rapport à la copropriété, combien vous devez d'argent à. Donc ça, c'est le syndic qui l'établit. Et alors là, il s'en donnait à cœur joie.
À la fin des années 2010, on a vu les tarifs des syndics augmenter de 4 à 7% par an dans les grandes villes comme Paris ou Bordeaux. Face à ces abus, il y a eu des lois à voter. Dans la loi Allure de 2014, on trouve des articles qui renforcent la concurrence entre les syndics. La loi Élan de 2018 est allée jusqu'à obliger à remettre en concurrence les syndics chaque année. L'idée est simple. Vous n'aimez pas votre syndic? Trouvez-en un autre. Le problème, c'est que ces lois ont mis du temps à vraiment entrer en vigueur.
Il a déjà fallu attendre 4 ans pour que le texte réglementaire paraisse, parce que, alors, autre spécificité du syndic, c'est des lobbies puissants vraiment, parce qu'ils sont vraiment dans les couloirs des ministères et ils peuvent laisser passer des lois, mais ils ont retenu, par exemple, ils ont parvenu à reporter ce décret de 4-5 ans, quoi, je crois, ou 6 ans même. Donc, pendant tout ce temps-là, ils ont pu se gaver sur ce qu'on appelle l'état daté. Donc, on avait fait les calculs, hein, ils étaient à 600 euros, donc, alors que c'était plafonné à 380. Et ce qui est déjà pas mal quand vous vendez un appart, alors que nous, on a calculé que ça c'est 20 minutes, une demi-heure de travail, quoi. Donc, ça fait pas mal à l'heure, quoi. Et ben voilà. Ce qu'ils ont trouvé aujourd'hui, c'est le pré-état daté. Donc, ils respectent le plafonnement, mais ils en rajoutent avec une autre ligne qui est illégale, là, pour le coup, selon nos analyses, mais bon, qui n'a pas été jugée comme telle pour l'instant, et qui horripile et surprend les gens qui vendent leur appartement. Ça continue, même si c'est bien moins pire qu'avant, quoi.
Et surtout, si vous pouvez changer de syndic, mais qu'ils ont tous les mêmes pratiques tarifaires, ça risque de ne pas vous coûter moins cher. Et là, on tombe sur un autre problème. Le marché des syndics de copropriété est très concentré et a donné lieu à beaucoup de pratiques anticoncurrentielles.
Il y a une grande concentration dans le métier de syndic. Si vous regardez bien, il n'y a que quelques acteurs qui ont, au fil des années, ont racheté des cabinets indépendants ou même des réseaux déjà. Si bien qu'aujourd'hui, on a une forte concentration et on veut faire croire parfois qu'il y a une vraie concurrence quand un président de conseil syndical contacte 3 syndics différents, demande des devis, il est possible qu'il y ait de la fausse concurrence et que les 3 syndics appartiennent au même groupe et qu'ils se dispersent les marchés comme ça. Ils disent, bah, tiens, je te le laisse, je vais faire des honoraires très très chers et ils te prendront toi. C'est ce que veut dire la DGCRF. Après, c'est extrêmement difficile à prouver. Et là-dessus, effectivement, les copropriétaires peuvent être démunis sur ce genre de pratiques.
La DGCCRF, dont parle Lionel Mauguin, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. L'un des bras armés de l'État pour faire respecter le droit de la concurrence et enquêter sur des pratiques qui y contreviennent. Une enquête menée en 2018 a par exemple montré un tour de passe-passe fréquent. Le promoteur d'un nouvel immeuble, qui vient d'être construit, choisit un syndic, vu que l'assemblée des copropriétaires ne peut pas encore le faire. Mais, aux surprises, le syndic est une entreprise qui appartient au même groupe, ou à une holding commune avec le promoteur. Facile de se mettre d'accord avec lui sur les tarifs. Dans ce cas, les propriétaires doivent au moins en être informés. Et ce n'était pas toujours le cas.
Oh ben ça c'est une surprise! Oh c'est incroyable! Je crois bien que je vais crever d'une crise cardiaque tellement c'est surprenant!
Vous aurez remarqué qu'on parle beaucoup au passé, à propos de tous ces abus. C'est parce que les différentes lois qui ont été mises en œuvre dans les années 2010 ont commencé à assainir un peu le marché. L'une des dispositions qui a le mieux fonctionné, c'est le contrat standardisé, entre syndic et conseil syndical. Le modèle de ce contrat est disponible publiquement, et les syndics ont du mal à justifier ce pourquoi ils devraient avoir un contrat plus compliqué et plus coûteux.
C'est clair qu'on est mieux armé pour lutter contre les abus, dans la mesure où on a un document standardisé Et les syndics sont obligés de proposer ce contrat. Ce qui change, c'est les chiffres en face. Mais donc, évidemment, c'est mieux comparable et c'est plus lisible pour les gens, même non initiés. C'est plus clair, le contrat est plus clair, il est comparable et on peut facilement dire bah là c'est trop cher, là c'est pas mal. Après, il n'y a pas que le contrat qui, évidemment, hein, qui régit les relations syndicales, mais enfin, c'est la base. Rien ne vous empêche de négocier pied à pied les tarifs s'ils vous semblent abusifs. Mais auparavant, malheureusement, il n'y avait pas que les tarifs à négocier, il fallait faire supprimer tout un tas de lignes abusives, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
De même, la DGCCRF a, je cite, « constaté une diminution du taux d'anomalie dans les contrats, passé de 63% des établissements contrôlés en 2017 à 46% en 2018 ». Mais ça ne règle pas le problème du manque de concurrence entre syndics. Lorsque vous êtes coincé dans une relation d'agence insatisfaisante, il n'y a que trois solutions pour essayer de changer les choses. Exit, voice, loyalty, comme disait Albert Hirschman. Si vous restez fidèle à votre syndic, c'est que vous comptez sur la relation de confiance que vous avez pu instaurer avec lui, comme le disait Lionel Mauguin un peu plus haut. Bien sûr, c'est plus facile avec votre voisine Roselyne, qui se charge bénévolement de tous les dossiers depuis 1990, qu'avec une grande société comme Foncia ou Citia. Si vous arrivez à trouver un interlocuteur auprès de votre syndic professionnel, alors il est possible qu'en le secouant un peu, voire en le menaçant de partir, il finisse par se bouger et enfin réparer l'ascenseur ou baisser ses frais d'état daté. Et la dernière solution, c'est de partir. En faisant jouer la concurrence, si toutefois vous trouvez des concurrents et pas des confrères qui se sont déjà entendus sur le partage du marché. Mais comme le dit Lionel Mauguin, le meilleur allié des syndics, c'est la difficulté à mettre en œuvre des actions collectives de la part des propriétaires.
On vit une époque, si je puis me permettre, où l'engagement est plus difficile au nom des autres. Enfin, la représentation, hein, que ce soit politique, syndicale, et ça touche les copropriétaires, hein, les copropriétés. Il y a de plus en plus de gens d'immeubles où les gens ne s'impliquent pas tellement. Parce qu'il manque de temps, parce que c'est compliqué, puis parce que c'est pas payé, et parce que ils voient pas que c'est quand même leur intérêt de collectif. Donc on peut taper sur les syndics, mais enfin il y a un moment donné aussi, il y a une responsabilité individuelle du copropriétaire qui, s'il est pas content, il faut qu'il peut faire changer les choses, quoi. Et plutôt que de grogner aux assemblées générales. Donc on a toujours rappelé ça, c'est-à-dire critiquer évidemment les gens qui étaient payés pour faire des choses qu'ils ne faisaient pas au mal ou avec abus. Mais on disait toujours, on rappelait, mais voilà, il faut un conseil syndical fort pour faire respecter les intérêts des collectifs, quoi.
Si ça prend autant de temps pour aussi peu de gratification et avant tout pour se retrouver à payer des factures, pas étonnant que les assemblées de copropriétaires et les conseils syndicaux ne fassent pas le plein. Face à ce genre de difficultés, et aussi pour faire jouer la concurrence, on a vu apparaître ces dernières années de nouveaux acteurs, comme Matera, qui offre une plateforme de gestion pour des copropriétés coopératives. Alors est-ce que le numérique et les plateformes horizontales vont bouleverser les vieux syndics ? Pas si simple là non plus.
Effectivement, il y a des nouveaux outils qui sont très pratiques, très efficaces, et qui sont satisfaisants pour les gens qui les utilisent aujourd'hui apparemment. Tout en restant très vigilant, parce que voilà. Et puis c'est des startups qui ont levé beaucoup d'argent, comme on dit, donc ont beaucoup de moyens de développement et qui viennent vraiment bouleverser le marché sans être des anges non plus. Hein. On est très clair là-dessus. La nouvelle société Matera qui fait tant parler d'elle, là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont à éclaircir dans leur contrat. Et donc, c'est aussi aux copropriétaires de poser les bonnes questions et de même les questions naïves. Enfin, toutes les questions sont bonnes et pour être très clair. Et si les réponses sont floues, ben c'est qu'il y a un problème. Et soit on peut écrire en plus. Hein, c'est des contrats de prestation. On n'est plus dans le syndicat. Hein, on peut ajouter des choses. Qui sont mieux adaptés à l'immeuble aussi. Donc, on est plus en position de discuter aujourd'hui qu'auparavant. On est moins victime. Et ça ne veut pas dire qu'on paye moins ou que c'est mieux géré. parce qu'il y a toujours des problèmes de réactivité, des problèmes de disponibilité. Mais d'un point de vue réglementaire, contractuel, on a quand même fait de gros progrès depuis plusieurs années. Et donc ça, il faut le reconnaître.
Finalement, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il y a un coût incompressible à être propriétaire dans une copropriété. Si c'est votre cas, vous allez effectivement passer des heures dans des réunions où vous comprendrez la moitié de ce qui se passe, avec des dossiers qui traînent depuis des années, pour finir par voter 30 000 euros de travaux alors que tout le monde aurait préféré que ce soit moins cher. Mais si vous ne vous y intéressez pas de près, eh bien ce sont des professionnels qui vous demanderont de leur faire une confiance aveugle. De même que vous ne savez pas vraiment si votre garagiste a bien fait de changer vos bougies, il y a des chances pour que les syndics continuent à profiter de l'asymétrie d'informations. Or, l'accession à la propriété s'est développée depuis les années 2000 en France, notamment grâce à la faiblesse des taux d'intérêt. Et les nouveaux propriétaires, qui se serrent déjà la ceinture pour rembourser leur crédit, ne sont pas très heureux de découvrir qu'il va en plus falloir payer des charges, surtout quand personne ne les avait prévenus. Henri Buzy-Cazot.
Ils ont fait un crédit parfois jusqu'à 30 ans ou 35 ans, maintenant c'est plus autorisé, mais ça a existé. On est limite à 25 ans. Ils se sont mis au maximum de leur solvabilité, les fameux 33% et souvent au-delà. Donc, les charges, ils n'ont pas réalisé qu'il fallait qu'ils en paient. Il y a d'ailleurs un problème d'information, je vous le dis tout net, de la part des banquiers quand ils prêtent l'argent. Les banquiers ne se soucient jamais du coût de fonctionnement de l'immeuble, de l'appartement, jamais. Et peut-être, moi j'en ai parlé avec la CLCV maintes fois, il faudrait peut-être que les banquiers puissent se dire non à un crédit, sachant que derrière, il va y avoir un coût de fonctionnement très élevé. Et là, il va y avoir en plus maintenant les fameux travaux de transition énergétique. Il a été chiffré que dans beaucoup d'immeubles, c'est des factures allant de 20 à 35 000 euros par logement qui devront être payées pour mettre aux normes l'immeuble. Voilà, hein, puisqu'on paye également pour les parties communes, bien sûr. En plus de ce qu'on peut faire à titre privatif, en général, on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce que vous imaginez, vous êtes endetté déjà sur 20 ans, vous êtes au maximum et vous allez devoir trouver 30 000 euros sur 2-3 ans que le syndic va appeler. Donc, ça induit des réflexes qui ne sont pas les bons de la part des copropriétaires, qui disent « moi, je veux pas faire de travaux, voilà ».
Alors, conclusion. Est-ce que les syndics de copropriété veulent la peau de leurs propriétaires ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont largement abusé de leur situation lorsqu'on les a laissés tranquilles. Les lois Allure et Élan ont commencé à donner des outils à leurs clients pour faire jouer la concurrence. Et peut-être que des nouveaux acteurs comme Matera y contribueront également. Mais l'un des principaux problèmes ici, ce sont les difficultés liées à l'action collective des propriétaires. Ça ne suffit pas de tout déléguer. Il faut en amont se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire, à quel coût et sous quel délai. Tout ça prend du temps et de l'énergie. Sinon, comme dirait Lionel Mauguin...
Il y a une solution, c'est d'acheter une maison ou de rester locataire.
Splash est une émission de nouvelles écoutes. Elle est présentée par moi, Emmanuel Martin. Cet épisode a été écrit par Marine Roux, interview réalisée par Mathilde Jolin, production et réalisation Marine Roux, mixage Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio.